Bonjour à toutes et à tous. Le chantier des nouvelles vagues cette semaine, c'est la mémoire. Lundi, nous évoquions les usages politiques et l'enseignement des mémoires féministes et des mémoires du fait colonial à l'école. Hier, les nouvelles pratiques et nouvelles technologies permettaient à des malades de retrouver la mémoire ou de ralentir sa perte. Demain, il s'agira de creuser la mémoire d'un lieu à venir avec deux artistes chercheuses. Et enfin, vendredi, le mash-up qui découpe école dans la mémoire du cinéma. Aujourd'hui, Twitter, la communauté et la mémoire individuelle. Rendez-vous avec Madeleine. À propos de l'installation In Memory, conçue entre 1993 et 1997 pour le Centre Georges Pompidou à Paris, Chris Marker écrit « Mon hypothèse de travail était que toute mémoire, un peu longue, est plus structurée qu'il ne semble, que des photos prises apparemment au hasard, des cartes postales choisies selon l'humeur du moment, à partir d'une certaine quantité, commencent à dessiner un itinéraire, à cartographier le pays imaginaire qui s'étend au-dedans de nous. » En le parcourant systématiquement, j'étais sûre de découvrir que l'apparent désordre de mon imagerie cachait un plan, comme dans les histoires de pirates. Et l'objet de ce disque ROM serait de présenter la visite guidée d'une mémoire, en même temps que de proposer au visiteur sa propre navigation aléatoire. Le CD-ROM comme condensé et continent de la mémoire de Chris Marker, ça nous semble bien loin, mais c'est beau. Il est 14h passées de 2 minutes, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. En fin d'émission, chaque jour, on propose à quelqu'un de partager avec nous un moment marquant, quelque chose qui le ou la constitue. Et cette semaine, c'est la directrice du festival Les Suds à Marseille qui se prête à l'exercice aujourd'hui. Elle évoque les taureaux avec qui elle a grandi et qui imprègnent, selon elle, son inconscient personnel autant que l'inconscient collectif de sa région. Alors, course camargaise et corrida de 2004 dans les arènes de Arles, c'est vers 14h50. C'est le troisième moment de ce chantier des nouvelles vagues consacré à la mémoire. Aujourd'hui, elle est morcelée, puis recomposée. Lorsqu'il vide l'appartement de sa marraine, le filleul de Madeleine oublie la cave numéro 16. Et c'est pourtant là qu'elle semblait avoir laissé quantité d'indices sur ce qui faisait sa vie. Des lettres, des cartes postales, des souliers, des médaillons avec dents de lait, des faire-part, photos, manteaux, mais aussi étiquettes minuscules, ouvrages scolaires, ouvrages tout court. Ce début d'inventaire et l'ordre dans lequel il est fait est déjà un projet de mémoire. Qu'est-ce qui se joue dans le fait d'entreprendre, de dire une vie par les éclats qu'on en connaît? Et qu'est-ce qui se joue lorsqu'on fait cela patiemment, en 140 caractères, sur un réseau social, espace public donc, où chacun est à même à la fois de se projeter et de s'emparer de la mémoire de cette femme transmuée en mots-clés? Mot dièse. C'est ce que vous questionnez dans Madeleine Project, un livre qui reprend les tweets de cette aventure, tout à la fois très personnelle et très partagée, à l'intérieur duquel on peut aussi vous lire un peu plus dans la longueur. Clara Baudou, bonjour.
Bonjour.
Ce livre est publié aux éditions du Sous-sol, ce qui ne s'invente pas, ou qui est un heureux hasard.
Un heureux hasard, un de ces nombreux heureux hasards.
Voilà. Et bonjour aux trois élèves de la classe de CM2 de l'école Jean Massé à Aubervilliers. On a autour de la table Ismaïl, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Igor.
Bonjour.
Et bonjour Pauline.
Bonjour.
Et bonjour à votre maîtresse Cécile Saint-Martin qui vous accompagne.
Bonjour.
Et bienvenue à tous. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'il y en a un de vous trois, par exemple, les plus jeunes, qui pourraient m'expliquer ce que c'est que Twitter, ou expliquer aux gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce que c'est que Twitter. Pauline ?
C'est un réseau social où en fait, il y a des personnes qui font des tweets en parlant peut-être de leur vie. Enfin, ça dépend de quel sujet on veut transmettre dans son compte Twitter. Après, on peut s'abonner, on peut suivre les gens. On peut liker, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais on peut mettre un petit cœur. On peut faire plein d'autres choses. Après, moi, je l'ai pas, donc je suis pas calée sur le sujet, mais voilà.
Toi, tu l'as pas, mais la classe l'a. À partir de quand est-ce que vous créez ce fameux compte Twitter qui s'appelle CM2 Jean Massé, @CM2 Jean Massé. Vous vous rappelez de la création, Ismaël, tu t'en souviens?
Oui.
C'était comment et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une sorte de petite réunion pour créer ce compte-là?
En fait, on a commencé par une petite réunion pour créer le compte Twitter de la classe. Et ça allait raconter majoritairement tout le Madeleine Project.
toute la manière dont vous vous entrez dans Madeleine Project.
Oui.
Igor, tu t'en souviens, toi, de la création de ce compte Twitter ?
Oui, c'était... on avait une petite réunion pour voir si... On a tout d'abord demandé à nos parents s'ils nous autorisent que notre classe peut créer ce compte Twitter. Et la plupart, toutes les parents, en fait, ils ont dit oui. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a créé.
Bon. Ça, c'était important, l'autorisation des parents. C'est un compte Twitter qui vient s'ajouter à tous les comptes Twitter qui dialoguent avec le vôtre, Clara Baudou. Quand vous commencez à tweeter Madeleine Project, ça fait combien de temps que vous avez découvert ces objets dans la cave numéro 16? Combien de temps après vous commencez?
Alors, en fait, moi, j'avais découvert tous ces objets quand j'ai pris l'appartement. Donc ça, c'était à l'été 2013. J'avais vu qu'il y avait plein de choses, mais j'avais pas vraiment le temps de m'en occuper à l'époque. J'étais pas allée vraiment fouiller. J'avais regardé un peu. J'avais fait un peu de place aussi pour mettre des affaires à moi au milieu de tout ça. Et puis, c'est finalement seulement en novembre dernier que là, je me suis vraiment plongée dedans, petit à petit, en racontant tout ça sur Twitter.
Et donc, comment vous procédez ? Au début.
Et ben au début, donc c'est cette semaine de novembre, j'y vais vraiment en direct. En fait, j'avais dû écrire les 15 premiers tweets de cette première saison, donc d'inventaire de cette cave. Et après, j'ai vraiment fait en direct dans la semaine. Alors, je ne pouvais pas tweeter depuis la cave parce qu'il n'y avait pas de réseau dans la cave. Mais en gros, j'allais l'après-midi dans la cave, je fouillais, je notais tout ce que je ressentais en découvrant les objets. Et c'est ça que je racontais le lendemain matin, vraiment au fur et à mesure de la semaine.
Et les photographies étaient prises sur le vif
dans
avec un téléphone portable?
Avec oui, tout à fait.
Ces tweets-là, vous avez voulu en garder mémoire, ce qui est aussi une mise en abîme, hein, puisque le fait de les publier sur le papier les enlève de l'éventuel éphémère du réseau social. Ça s'est imposé à quel moment ?
Alors en fait, moi j'ai eu plein de propositions après cette saison 1, de plein de gens qui voulaient travailler avec moi, faire des choses. Et je me disais moi que la vraie démarche c'était celle-là et que c'est celle-là que je voulais continuer, c'est-à-dire de continuer à le faire sur Twitter. Donc j'avais pas envie d'écrire un roman par exemple. La seule chose qui avait du sens pour moi c'était d'inscrire cette démarche sur du papier pour oui aussi pour moi, pour la conserver parce qu'il y a quelque chose d'assez immatériel sur Twitter. Et puis ce qu'on se disait aussi avec ces éditions du sous-sol, c'est que ça permettrait à d'autres gens de découvrir cette histoire, des gens qui sont pas forcément en ligne.
Quand vous décidez donc de publier ces tweets-là, vous vous posez la question et sous quelle et dans quelle forme de vous emparer de la mémoire de cette femme ou en tout cas de la recomposer, de la réinventer. Quelles sont les questions qui se posent à vous ?
Il y a tellement de questions que c'est difficile à dire en fait. Mais au début, en démarrant le projet, moi je savais pas que ça prendrait cette ampleur-là, que ça intéresserait les gens. Donc je l'ai démarré un peu comme ça aussi dans mon coin sur Twitter. Certes, c'est public, mais un peu en me disant que j'allais faire mon petit truc dans mon petit coin, dans ma petite cave. Et puis finalement, ça a fait le buzz, comme on dit. Beaucoup de gens ont retweeté, beaucoup de gens se sont mis à m'écrire. Donc c'est vraiment en le faisant en fait que je me suis rendu compte que ça intéressait les gens. Et j'ai trouvé ça très beau que des toutes petites choses, vraiment que des petites fleurs séchées dans une cave, finalement, ça intéresse des gens. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que si ça les intéressait tellement, c'est aussi que ça les renvoyait chacun à leur propre histoire. Parce que beaucoup de gens m'ont écrit en me parlant de leur grenier, de leur cave, de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur grand-mère qui s'appelait Madeleine. Tellement de gens ont eu des grand-mères qui s'appelaient Madeleine. Donc en fait, voilà, ça intéressait les gens parce que ça les a touchés dans leur propre histoire.
Et évidemment, cette histoire, elle n'est en partie par la vôtre. Elle est la vôtre parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, de celle du XXe siècle, et en partie celle de Madeleine, sa vie privée. Il y a évidemment ce volet éthique. Comment vous l'avez résolu, le fait de vous en emparer ?
Alors évidemment, cette question insoluble de qu'est-ce qu'elle en aurait pensé, est-ce que j'ai le droit de faire tout ça, je me la suis beaucoup posée. Donc moi, j'ai répondu, pour pouvoir continuer, j'ai répondu à la fois en faisant ça avec un très grand respect, une très grande bienveillance pour elle, en faisant un portrait beau. Voilà, moi je m'attache dans cette histoire à garder, je raconte pas tout ce qu'il y a dans cette cave, je garde que ce qui est beau en fait. Et donc ça, c'est vraiment une belle histoire. Et puis je suis allée rencontrer les gens qui l'ont connue en fait, qui la connaissaient à la fin de sa vie, que ce soit les voisins, le filleul, et ces gens-là m'ont dit qu'ils aimaient le projet, que ça lui ressemblait, que c'était beau. Donc ça m'a donné envie de continuer en fait, que ces gens-là d'une certaine manière m'autorisent à continuer.
Et le sous-titre du reportage qui est inscrit assez gros sur la couverture, ça c'est quelque chose que vous avez choisi pour inscrire cela dans votre travail journalistique, dans une pratique que vous connaissez ?
Alors, ce projet, de toute manière, s'inscrit, moi, dans ma démarche journalistique, mais qui prend un peu un pas de côté, là, avec ce projet-là, où je me mets à dire « je », même si je continue à utiliser Twitter, qui est ce que j'utilisais vraiment avant comme outil journalistique. Pour ce qui est du reportage, ça a été une discussion avec la maison d'édition, en fait, où pour eux, ça s'inscrit dans ce qui est le reportage littéraire, en fait. Et pour moi, je considère que c'est aussi du documentaire, en fait. J'ai l'impression, surtout avec ce projet-là, d'avoir mis un pied. En tout cas, c'est ça que je voulais faire cette année. Donc, je suis restée sur Twitter, parce que c'est l'outil que je connaissais. Mais j'ai l'impression d'avoir mis un pied dans ce qui est plus, pour moi, du documentaire, en fait.
Cécile Saint-Martin, c'est aussi sur Twitter que vous prenez connaissance du Madeleine Project ?
Alors, pas directement. Nous, l'origine est un peu compliquée. On est en classe de CM2, on est amené à décloisonner avec la sixième, avec des professeurs de sixième.
Donc décloisonner, ça veut dire mélanger
voilà,
les niveaux.
Voilà, on mélange les niveaux. Et on avait cette chance-là de pouvoir travailler avec un prof d'histoire et on voulait absolument travailler la trace écrite en histoire. Il nous propose de fabriquer une capsule temporelle, qui sera d'ailleurs déposée vendredi aux archives d'Aubervilliers.
On
voulait enterrer, faire vraiment une capsule temporelle, c'est-à-dire prendre une boîte, enterrer des lettres, des objets de notre quotidien, et puis l'enfouir en espérant que quelqu'un la trouvera peut-être dans son... Enfin, on ne savait pas, mais voilà. Et en fait, sur Aubervilliers, il y a beaucoup de constructions, et c'était compliqué d'enterrer ça dans les constructions par rapport aux droits, pour l'accès par rapport aux enfants. Donc on nous a proposé gentiment de mettre ça aux archives, ce qui n'a jamais été fait encore. Et en parlant de ça, il y a une personne qui travaille à l'inspection, qui est coordinatrice de réseau, qui me dit, ça me fait penser, je viens de voir sur Twitter, parce qu'elle elle a son compte Twitter, j'ai vu passer des photos de notre école. C'est une journaliste qui a découvert des affaires dans sa cave. Et la personne dont elle parle est une ancienne collègue de Jean Massé. Donc j'en parle aux enfants.
École où vous enseignez trois invités d'aujourd'hui sont élèves.
Donc du coup, je propose aux élèves de regarder le compte de Clara. On y va. Et là, on reconnaît notre cours avec rien qui n'a changé finalement. C'est exactement les mêmes locaux. Et on s'est dit, on y va au culot, on envoie un message à Clara Baudou et on voit si ça l'intéresse de venir nous en parler, et elle a accepté très rapidement.
Et naît un autre pan de cette aventure sur lequel on reviendra, parce que c'est aussi l'ouverture d'une saison à venir. Est-ce que vous vous souvenez, Pauline, Igor et Ismaili, de la première fois que vous voyez votre cours d'école, mais sur une photo qui date de bien des années en arrière ? Pauline ?
On était un peu surpris, parce que ça a un peu changé. Surtout la cour, en fait, ça avait des... C'était pas vraiment comme ça, ils ont changé les fenêtres et tout. Et voilà, et je pensais que on n'avait pas changé l'école. Enfin, c'était la même chose que les mêmes sols que... Je pensais que les sols où je marchais, c'était les mêmes que plein de gens d'autres où marchaient dessus.
Et alors ça fait quoi, par exemple? Ça fait quoi de marcher et de se dire, sur ce même sol, eh bien, plein de gens ont marché, dont Madeleine? Ça t'a fait quoi?
Je me dis, par exemple, que ça doit faire drôle, parce que c'est des gens que je respecte, que je respecterai toujours, même si je les ai pas connus. De savoir qu'ils ont marché sur la... Je marche sur leurs pas, ça me fait bizarre, mais c'est tout un honneur.
Et toi, Ismaïl?
Ça fait revivre l'histoire. Comme quand Madeleine a enseigné. Alors, moi,
toi, le fait de savoir que Madeleine a marché sur le sol de l'école, ça t'a fait revivre l'histoire. Mais ça veut dire quoi pour toi, faire revivre l'histoire?
Ça veut dire que ça m'a donné une imagination ou du film de quand Madeleine elle était à Jean Massé enseignante.
Ça t'a permis de te faire des images de ce que c'était que cette école-là, de cet endroit-là, dans le passé?
Oui.
Plus facilement que, par exemple, quand tu as une leçon d'histoire et qu'on te raconte une histoire?
Oui.
Et pour toi, Igor?
Pour moi, quand je rentre dans la cour de l'école, je trouve que... Je ressens... je sais pas comment vous expliquer, mais je ressens quelque chose. Je ressens peut-être que Madeleine, elle marchait quelque part, et je ressens que moi aussi, en fait, il faut que je marche là, parce que je sais pas, je sens que quelque part, il y a encore, elle a mis quelque chose d'intéressant qu'on pourrait découvrir dans l'école, mais on sait pas c'est où.
Ce coquetier a été très important, et c'est peut-être ce coquetier qui m'a décidé à écrire ce livre. En 1939, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps, ma mère, un jour en visite chez une amie de la famille, lui offre un petit coquetier peint à la main. Et en 2009, c'est-à-dire 70 ans plus tard, cette amie, sachant que nous allions nous rencontrer dans une soirée, a enfoui le petit coquetier très largement défraîchi, comme on peut l'apercevoir dans le livre, dans son sac à main pour me l'offrir. Et je me suis dit que si une amie de la famille avait conservé pendant 70 ans un objet avec autant de soin, il n'était pas possible que le fils n'essaie pas de rassembler ses souvenirs. Bien, comme nous l'avons dit, qu'il n'ait pas grand-chose à dire, mais presque rien, il fallait le dire, il fallait le mettre quelque part. Je pense que c'était un devoir.
D'accord. On entend la voix de Marcel Cohen dans un entretien avec Laure Adler dans l'émission Hors Champ. Le 3 décembre 2013, il parle de ce petit coquetier, de l'importance de ce petit coquetier qui presque lui a demandé de continuer à transmettre. Tout à l'heure, Igor, tu disais, quand je me promène dans la cour de l'école, j'ai l'impression que Madeleine a laissé comme ça des choses magiques qui me demandent de poursuivre, mais je ne sais pas où et je ne sais pas quoi. Quand vous découvrez les objets, Clara Baudou, dans cette cave numéro 16, est-ce qu'il y a des objets qui vous ont parlé plus que d'autres ?
Alors, il y a des choses qui m'ont touchée, en fait. Par exemple, ce qui m'a vraiment touchée, c'est des petites boîtes, en fait, que j'ai ouvertes sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et il y avait, par exemple, ces gommettes en étoiles. J'ai trouvé ça très beau. C'est vraiment ces toutes petites choses. Aussi, elle a gardé, elle collectionnait, je pense, les trèfles à quatre feuilles. Donc, il y en avait des trèfles à quatre feuilles séchées entre différentes pages, pas mal de fleurs séchées un peu partout. Et ça, c'est des choses qui sont tellement fragiles, en fait, mais qu'on se dit qui sont encore là, en fait, aujourd'hui, qu'on réussit à traverser l'histoire alors que tout ça aurait pu partir en poussière.
Oui, est-ce que dit Marcel Cohen, c'est si on a conservé ce petit coquetier peint à la main si longtemps, ça veut dire qu'il y a un impératif à le conserver et qu'il y a après une sorte de poursuite comme ça vers l'avant, vers le présent, vers le futur. Vous vous êtes senti aussi comme invité, pas obligé, mais invité à poursuivre la conservation ou la transmission ?
Alors moi, c'est vrai que par rapport aux objets, je me suis rendu compte, enfin, avec ce projet, que les objets restent, alors que nous, on part en fait. Donc les objets restent le lien entre les gens en différentes époques. Et ce que disait Igor sur la cour de récréation, il me l'avait aussi dit une fois où je suis allée les voir en classe, où je faisais circuler dans la classe des objets que j'avais amenés de la cave, et notamment les photos de classe. Et Igor, je me rappelle, il avait dit « Et ça vous fait pas bizarre de toucher ces objets que Madeleine a touchés, en fait ?» Et donc je me dis oui, que ces objets sont des liens entre les gens, et je trouve ça très beau de faire un projet avec ses enfants, en me disant voilà, c'est passé de Madeleine à moi et je le retransmets à quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Pour moi, ça en fait, quand je me pose la question de qu'est-ce que Madeleine aurait pensé de tout ça, je pense que ce projet avec les enfants, c'est bien la seule chose où je suis sûre qu'elle aurait aimé, en fait.
Quand vous touchez des petits colliers, il y en a certains qui se brisent parce que, en effet, la mémoire est très fragile. Il y a un autre pendentif où il y a une dent de lait qui vous permet d'ouvrir là aussi un champ historique de recherche par rapport à des pratiques. Quel est ce petit pendentif et vers quoi, par exemple, ça renvoie à une page à Wikipédia ou une page documentaire sur Internet ?
Oui, moi je ne savais pas que. Donc, moi vraiment, quand j'ai découvert cette dent de lait accrochée à un pendentif, donc on se met autour du cou, moi je ne savais pas que c'était une pratique qui se faisait, en fait, de garder ces dents de lait. Donc, après, en deux clics sur Internet, on voit que oui, ça se fait encore. Il y a même une dame, je me rappelle, qui m'a écrit à ce moment-là pour me dire « Ah, ça, je peux vous le racheter si vous voulez bien. » Donc, ça intéresse encore des gens aujourd'hui.
Et ça rejoint ce que disait Ismaël tout à l'heure par rapport à l'histoire, en disant, toi tu disais ça fait revivre l'histoire, c'est ça que tu disais, Ismaël ? Il y a quelque chose en effet de l'incarnation, c'est pas pareil d'entendre parler d'une pratique de dandelet, de pendentif de dandelet, que d'en tenir un dans ses mains. Vous qui avez eu les objets ou certains des objets de Madeleine dans vos mains, est-ce que vous pouvez m'en décrire un ? Igor ?
En fait, les tickets de rationnement, je trouvais ça... très simple pour la guerre, mais aussi très difficile parce que, par exemple, on a appris avec notre maîtresse et avec Lara qu'on pouvait acheter une paire de chaussures par an, et si on les déchire, bah, ça sera dur, on pouvait marcher pieds nus. Et donc, je trouvais aussi bizarre que on achetait du pain avec des tickets, mais pas avec de l'argent.
Et alors toi, quand tu tiens un ticket de rationnement qui est utilisé pendant la guerre pour se procurer des objets, de la nourriture, tu penses à quoi? Tu penses à la manière dont c'était vécu, la manière dont ils ont pu traverser, ces hommes et ces femmes, la guerre? Ou est-ce que tu penses à toi, ce avec quoi tu achètes des objets et de la nourriture, à ton argent? Tu te situes où dans le temps? Ça te fait quoi de tenir ce ticket dans tes mains?
Je me ressens un petit peu bizarre parce que maintenant, à notre époque, on achète avec de l'argent. Et à la Deuxième Guerre mondiale, on achète avec des tickets de rationnement. Donc c'est ça que je trouve le plus bizarre parce que avant, donc, on achetait avec des tickets et maintenant avec de l'argent.
Pauline, tu te rappelles d'un des objets qui aurait été un peu puissant dans tes mains que tu aurais pu voir d'ailleurs sur le compte de Clara Baudou?
Bah oui, parce que en fait, la chose que j'avais envie de voir, du coup, comme Clara, elle n'était pas beaucoup venue, deux fois, peut-être parce qu'elle n'avait pas de temps, parce qu'elle est quand même journaliste, et bien, moi, elle avait ramené, Clara avait ramené un carnet où elle avait écrit un peu des notes, par exemple, de ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle pouvait faire la journée ou quoi.
Des petits agendas, des tout petits agendas.
Oui, voilà, des petits. Ouais. Et puis moi, ça m'a fait penser à ça parce que, enfin, moi, j'écris pas beaucoup, mais de la voir, par exemple, écrire, je m'imagine un peu dans ses journées et je me dis que ça pouvait être... ces journées, comme elle a vécu la guerre, moi je me serais dit que elle passait des journées pas terribles. Ah, des fois, c'est pas toujours tout rose, mais j'aurais bien pu passer une journée dans son carnet ou par exemple ce qu'elle écrit, j'aurais bien voulu passer une journée pour voir comment ça fait parce que j'aime bien en plus comment elle écrit et tout.
T'aimes bien comment elle écrit, t'aimes bien son écriture graphique ou t'aimes bien comment ce qu'elle raconte ou comment elle le raconte?
Bah les deux parce que en fait elle a du vocabulaire enfin comme tout le monde mais elle quand elle parle elle a une chose pour vraiment que tout le monde la comprenne. Elle a une façon de parler qui marque moi. Par exemple, j'arrive vraiment à la comprendre, peut-être qu'il y en aura des autres qui comprendraient pas, mais même si elle a une façon d'écrire pas comme la mienne, on dirait que ça va dans ma tête, les choses qu'elle écrit, en fait, je le ressens direct. Moi, j'aime bien.
Peut-être parce qu'elle était institutrice et qu'elle s'occupait d'enfants comme toi, de ton âge.
Peut-être, je sais pas.
Il y a un moment donné, Clara Baudou, dans ce projet où vous commencez à tutoyer Madeleine. D'ailleurs, on sent qu'il y a presque un moment d'hésitation. Au départ, vous l'appelez Madeleine, elle est un peu à distance. Et puis, d'un seul coup, vous vous mettez à lui dire « tu ». C'est arrivé comme ça?
Oui, c'est arrivé comme ça. Je l'explique pas bien, mais j'ai dû passer quand même du temps dans cette cave cette semaine-là. Donc, en ouvrant des boîtes, je me suis mis un peu à lui parler dans ma tête, donc à dire tu. Je l'ai réfréné un peu et puis je me suis dit que finalement, ça ferait partie du projet.
Ah oui, elle était marrante. Oui, elle avait beaucoup d'humour. Puis elle aimait bien rire, s'amuser. Elle prenait pas les choses au sérieux. C'était quelqu'un qui était extrêmement positif, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, elle s'arrêtait pas à des choses qui peuvent être embêtantes, même sur sa santé. Elle s'éternisait jamais là-dessus. Elle passait, elle dit c'est comme ça. Elle était pas du tout. Quand on allait la voir, elle ruminait pas. Elle allait pas dire oui, j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout.
Du quartier latin, la blanchisseuse Madeleine portait le dimanche matin le linge blanc de la semaine. À l'atelier, sa grande sœur ayant souffert d'être amoureuse d'une voisinette douloureuse, la conseillait avec douceur. N'en fais pas à ta tête folle, prends garde, la vertu s'envole. L'amour est menteur, garde ton cœur, garde-le, ma jolie Madeleine. Si tu le donnais, tu souffrirais. secret, à l'amour ne le livre jamais. Quand c'est fini, le bonheur s'enfuit, l'abandon, ça cause tant de peine. L'amour est menteur, garde ton cœur, garde-le, garde-le, Madeleine. Comme bien des romans d'amour, finit celui de Madeleine, tombée l'étudiante un beau jour, partie pour des contrées lointaines. Lui laissant pour tout souvenir, pour chasser ses idées moroses, une fillette, cher bébé rose, qui ne demande qu'à grandir. En la berçant, sa jeune mère lui chante en pensant à son père. L'amour est menteur, garde ton cœur, garde-le, ma jolie Madeleine. Si tu le donnais, tu souffrirais, à l'amour ne le livre jamais. Quand tout est fini, le bonheur s'enfuit, l'abandon, ça cause tant de peine. L'amour est menteur, garde ton cœur, garde-le, garde-le, Madeleine.
Garde ton cœur, Madeleine. C'est une des chansons de la bande originale de ce projet, Madeleine Project, qu'on évoque avec tout ce beau monde autour de la table et aussi avec vous, Marc, au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un des voisins de cette histoire. On entendait juste avant cette chanson la voix de Brigitte, qui est l'une des voisines interrogées, qui évoque la figure de Madeleine, interrogée par Clara Baudou. Et on trouve tous ces petits moments d'interview sur une plateforme SoundCloud. Comment vous découvrez-vous le Madeleine Project ?
Alors moi je l'ai découvert au travers des réseaux sociaux, qui est pas Twitter mais Facebook pour ne pas le nommer. Et c'est une journaliste d'ailleurs de la maison de Radio France qui avait reposté le lien sur les tweets. Et j'ai été voir par curiosité et je me suis vite rendu compte que je reconnaissais beaucoup de choses en fait. Et finalement, ben, le lien s'est fait assez vite avec Madeleine, notre voisine, qui n'était plus là depuis quelques années. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert en fait ce beau projet.
Vous commencez par prendre connaissance des traces, des photographies postées par Clara, sans vous douter dans un premier temps qu'il s'agit de votre Madeleine.
Effectivement, déjà la première photo, c'est une photo de la porte de la cave avec le numéro 16. Et ça fait tilt aussi dans mon esprit parce qu'elle ressemblait fort à la porte de ma cave à moi. Donc du coup, c'est après en descendant dans les différents tweets et en voyant une photo en fait de Madeleine Jeune que je l'ai reconnue.
Alors, entre une femme que l'on connaît, que l'on croise dans l'escalier, qu'éventuellement on va visiter aussi, puisque Madeleine est restée très vieille femme très âgée dans cet immeuble, et des tweets en 140 caractères avec des petites images, comme sorte de mémoire morcelée, il y a une différence. Comment vous avez conjugué les deux, vous qui aviez la possibilité d'avoir les deux en tête ?
Alors effectivement, on pourrait penser que c'est deux personnes différentes parce que les époques sont pas du tout les mêmes. Nous, on a connu Madeleine, elle avait plus de 85 ans. Et là, on découvre une Madeleine qui est plutôt jeune, qui a une vie active, donc qui est assez différente. Après, on retrouve quand même des traits de caractère dans la manière... Dans ce que Clara expose, hein, on retrouve des traits de caractère de Madeleine qu'on connaissait, en fait. Et c'est les photos qui font que on reconnaissait bien quand même la personne qu'on avait connue.
Et pour vous, c'était important dans les tweets qui sont rapportés de votre conversation avec Clara Baudou, il y a des citations de ce que vous avez dit. C'était important qu'on la reconnaisse d'une certaine manière ?
Oui, parce que ça montrait aussi une autre période de sa vie, qui était la fin de sa vie, où beaucoup plus de gens l'ont côtoyé, enfin des gens qui sont encore là l'ont côtoyé, et ça permettait de faire un lien entre cette femme peut-être un peu imaginaire, qu'on peut s'imaginer au travers de photos qui sont anciennes, et quelqu'un qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, et que plus de gens ont connu.
Évidemment, dans cette histoire, il y a une histoire d'amour. Je dis évidemment parce que c'est aussi ce qui fait un des moments forts du Madeleine Project. C'est son histoire et son échange avec Loulou. C'est un échange dont vous prenez connaissance. De quelle manière, Clara Baudou ?
Eh ben, en trouvant dans la cave une valise dans laquelle il y avait des tas de lettres, à la fois sur du papier bleu, sur du papier jaune. Voilà, alors cette première semaine, au début, j'ai pas compris en fait que c'était des lettres d'amour au début. Je pensais que c'était des lettres d'un père à sa fille. Et puis j'ai lu un peu plus et j'ai compris que c'était ça. Alors j'avais pas le temps dans la première semaine du projet de tout lire. Mais voilà, c'est fait maintenant, j'ai tout lu. Donc,
Vous avez lu tous les échanges entre Loulou et Madeleine. C'est une histoire d'amour qui dit aussi la grande histoire et le moment de l'histoire dans lequel s'inscrit leur. Leur amour. Oui. Comment est-ce que, justement, petit à petit, se sont révélés ces différents enjeux historiques qui se rajoutaient à l'enjeu mémoriel ?
Dans les lettres, c'est que dans les lettres, leur histoire d'amour se développe en même temps que la guerre, en fait. Vraiment, ça se passe entre 39 et 43. Donc, les lettres, c'est des lettres de Loulou qui écrit à Madeleine. Et donc, il y a à la fois des mots d'amour, évidemment, et puis aussi des commentaires sur ce qui se passe dans l'actualité. Par rapport à la guerre, ouais.
Vous les avez lues, vous, ces lettres-là, Pauline ?
On les a lues sur Twitter. Ça faisait bizarre parce que on dit pas les mêmes choses maintenant à quelqu'un qu'on aime. Enfin, il y en a.
Il dit quoi, Loulou, par exemple ?
Je me rappelle plus vraiment, mais je me rappelle juste qu'il avait dit qu'il voulait la rassurer. Donc il lui avait dit que là-bas tout se passait bien, mais bon, on savait tous que voilà, c'était un peu moyen, et que elle répondait forcément un peu inquiète parce qu'elle disait que ça pouvait pas être vraiment la vérité. Après, comme toutes une femme à son époux, elle s'inquiète toujours pour lui. Après, c'était mignon parce que ça se voyait qu'ils s'aimaient beaucoup. Bon, après, le destin a fait qu'ils se sont plus revus. Mais c'est quand même resté une histoire forte.
Et vous, ça vous avait fait quoi, vous, Ismaël et Igor, de découvrir l'histoire d'amour entre Loulou et Madeleine ?
En fait, l'histoire de Madeleine et Loulou, moi, j'ai trouvé ça assez mignon. Parce que ça se voyait aussi qu'ils s'aimaient beaucoup. Et en fait, je me souviens qu'on était dans la classe et la maîtresse, elle nous a montré et quand il a dit à Madeleine qu'il le manque trop, je trouvais ça assez mignon et il y avait même quelques filles qui se disaient « Oh, c'est trop mignon !» Donc ça m'a fait rigoler.
Ça t'a fait rigoler. Tout à l'heure, on discutait avec Clara Baudou de « Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit ?» Et comment on fait quand on a des petits bouts de vie qui sont des petits bouts de vie privés de Madeleine ou de quelqu'un d'autre et là, de les lire en classe. Par exemple, vous, ça vous faisait quelque chose de pouvoir lire des lettres si intimes, Pauline ? Ismaël ?
Ça nous a fait de voir un peu les relations d'amour comment ils étaient avant la guerre et pendant la guerre.
Mais est-ce que tu avais l'impression de lire quelque chose de secret ? Ces lettres, elles étaient entre Loulou et Madeleine au départ ?
Un peu.
Et alors ? Ça faisait quoi ?
C'est comme si on fouillait un peu dans les histoires.
Et ça fait quoi de fouiller dans les histoires ?
On se sent un peu gêné.
Un petit peu gêné ? C'est une gêne que vous avez ressentie, Clara Baudou, quand vous êtes arrivée à cet endroit plus intime de la vie de Madeleine ?
Oui. Alors après, moi, je lis tout ça en me disant... Enfin, quand je lis les lettres, je sais déjà ce que je vais dire ou que je ne vais pas dire, en fait, ce que je vais rendre public ou ce que je ne vais pas rendre public, comme ce qu'il y a dans la cave, en fait. Je n'ai pas tout montré ce qu'il y avait dans cette cave. Voilà, j'essaye de faire attention à ça.
Est-ce que vous faites un travail qui serait similaire à celui qu'on fait à partir d'archives et de documents d'histoire, comme un travail d'historien, c'est-à-dire que les historiens travaillent, y compris avec des archives intimes? C'est cette position que vous avez adoptée?
Non, pas du tout, parce que je suis pas historienne et je sais que je ne fais pas tout ça de manière scientifique. Et après, voilà, ça pourrait être... Quelqu'un m'a dit que ça pourrait être la saison 5 de se dire comment t'aurais dû faire pour le faire scientifiquement. Et c'est vrai que je le fais, moi, avec ce que je suis, donc journaliste qui veut faire du documentaire, touché par certains objets plus que d'autres, mais je sais très bien que je ne le fais pas de manière scientifique.
Est-ce que vous avez discuté ça avec vos élèves, Cécile Saint-Martin, à savoir... Quels documents on tient dans nos mains? Qu'est-ce que c'est que la mémoire privée, publique, collective, l'histoire?
Ça ne s'est pas vraiment présenté parce que Clara ne nous a pas du tout rapporté de lettres. On a vu des tout petits bouts sur Twitter et ce n'est pas des lettres intégrales. C'est souvent des débuts de lettres et des petits passages. Donc,
très beau d'ailleurs.
Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très joli et que c'est vrai que c'est assez représentatif de comment on se parlait à l'époque. Donc, on n'a pas eu ce côté un peu gêné. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas l'impression qu'on rentrait dans son intimité parce qu'on n'avait pas toute la lettre. On avait juste des petits débuts, comme quand elle a tweeté aussi ce petit message d'élève « Maîtresse, vous êtes douce comme de la laine de mouton ». Voilà, nous, ça nous intéressait. Mais on n'a pas trop... Enfin, on n'a pas eu l'impression d'aller dans sa vie privée. Par contre, ce qui nous a intéressé, c'est de l'imaginer dans nos locaux et ce qu'elle voyait dans le quartier. Ça nous a beaucoup plu. Et c'est là-dessus que nous, on a travaillé, essentiellement.
Ce que disait la maîtresse, parce que oui, on n'avait pas trop l'impression de rentrer dans son intimité, parce que Clara, ce qui est bien, c'est que, par exemple, elle ne donne pas tout, elle respecte un peu la vie des autres. Parce
beaucoup
que,
même.
Oui, voilà. Parce que moi, je sais pas si Madeleine, ça l'aurait aussi un peu gênée, je pense, de voir tout. Donc moi, je pense qu'aussi, elle respecte son ressenti. Enfin, je sais pas comment trop dire, mais je pense que elle ne dévoile pas tout, voilà, comme dit la maîtresse, elle a mis des petits bouts de lettres, des petites fins, et juste ça, c'est la limite à ne pas dépasser, voilà, elle ne montre pas plus ni moins, ça c'est bien, parce que comme ça, au moins, elle rentre pas dans son intimité, parce que ça se fait pas trop, je trouve.
Les photos, elles sont comme toutes les photos de famille, elles sont à la fois très intimes et très universelles. Dès lors qu'on ne sait pas qui sont les gens qui sont sur les photos, c'est comme si elles nous appartenaient à tous. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par écrire un roman où j'ai vraiment projeté mon imaginaire, etc. Mais je savais néanmoins que c'était des vraies photos et donc il y avait des vrais gens. Honnêtement, moi, je théorise assez peu. En tout cas, avant de commencer, la première chose, c'est l'excitation, le fait que ça soit possible et que voilà, que c'est enthousiasmant et tout ça. Après, évidemment, le truc, c'était pas tellement de comparer ma fiction à la réalité, puisque pour moi, les deux sont vrais ou les deux sont fausses, mais plutôt, voilà, de proposer différents regards et différentes langues aussi sur ces gens.
C'est un autre projet que celui d'Isabelle Monin. Elle est ici au micro du Temps des Écrivains, présenté par Christophe Nodibio, en octobre 2015 sur France Culture. C'est un travail où la fiction est entrée en jeu. Vous dites, Clara Baudou, que vous, à partir des photos... Isabelle Monin, c'est vraiment à partir d'un lot de photographies achetées. Vous n'avez pas du tout tiré le fil vers la fiction. Ça vous a tenté à un moment donné ?
Alors moi, je considère pas qu'il y ait pas du tout de fiction, parce que moi, je me dis que voilà, j'essaye de reconstituer la vie de Madeleine et sa mémoire à travers les fragments de cette mémoire que j'ai dans la cave. Après, c'est comme un puzzle dont il manquerait des pièces. Enfin, il y a plein de trous, et ces trous-là, moi, je pense que je les comble par de la fiction que je me fais, de l'imagination, ce que j'imagine qui relie les différents points de son histoire entre eux. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que peuvent faire en fait les internautes, eux, avec ce qu'ils sont, eux, leur propre histoire à eux, et que du coup, chacun, on peut un peu mettre une dose de fiction et d'imagination dans le projet. Donc je pense qu'il y en a quand même de la fiction.
Bien sûr, finalement. Et en fait, c'est ce que disait Pauline tout à l'heure en disant en fait, on ne rentre pas et on reste au seuil de son intimité. Ça veut dire que la Madeleine de la Madeleine Project n'est pas exactement la Madeleine qui a vécu dans l'immeuble dans lequel vous avez vécu, vous, ou dans lequel vous vivez.
Mais alors ça, je ne sais pas exactement, mais je pense que non. Oui, ce que je reconstitue, ça ne peut pas être exactement ce qu'elle était, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, parce que j'ai décidé aussi de ne pas tout dévoiler, donc ça devient... Même si tout est basé sur des documents réels qui sont là et que j'ai continué l'enquête en allant aux archives, enfin, je me base vraiment sur la réalité. Je sais qu'au final, je pense qu'il s'en crée un personnage, en fait, de cette Madeleine un peu fictionnée aussi.
Et c'est un personnage qui vous permet, à vous, Cécile Saint-Martin, de faire un pont vers un présent très, très clair et très concret pour vous, à savoir cette école à Aubervilliers. Comment est-ce que vous en êtes emparée et quelle enquête vous menez à votre tour ?
Alors, comment on s'en est emparée ? Ça s'est fait naturellement. C'est extrêmement bizarre comme projet. On a envoyé une bouteille à la mère vers Clara, qui l'a réceptionnée, enfin, qui est venue en classe... On a réfléchi toutes les deux et avec Claire aussi, la coordinatrice REP, de qu'est-ce qu'on pouvait apporter à ce projet. Parce que voilà, Clara, des personnes qui lui renvoient des informations, elle en a par milliers, vraiment. Donc du coup, on s'est dit qu'est-ce que nous, on peut apporter qui soit intéressant. Et on s'est dit, Madeleine, elle était dans nos locaux, dans notre quartier, donc on pourrait faire tout ce travail-là pour Clara. Et c'est ce qu'on a proposé avec les enfants à Clara. Et ça l'a tout de suite emballée, je pense.
Et avec cet objectif, quand même, qui était fixé, de retrouver un ancien élève de Madeleine à Aubervilliers.
Alors, on en est où de cette enquête et quelle forme a pris l'enquête ? Ismaël, tu peux me raconter comment est-ce que vous avez décidé de retrouver un ancien élève de Madeleine ? Comment ça se passe ? Qui vous allez voir ? Quelles questions vous posez ?
Tout d'abord, nous allons commencer à chercher dans notre ville des voisins ou des voisines du même immeuble, ou pas forcément du même immeuble, mais d'Aubervilliers.
Vos immeubles à vous, en fait.
Oui. Et on en a trouvé quelques-uns.
En fait, il y avait un gros travail de préparation. Il fallait qu'on trouve des personnes de la bonne classe d'âge, parce que des voisins, on en a tous. Mais il fallait qu'ils aient la bonne tranche d'âge. Donc, on a fait des petits calculs. En CM2, c'était pas trop difficile quand même, on va pas se mentir. Et puis, à partir de là, qu'on avait une idée de la catégorie d'âge dont on avait besoin, on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait retrouver ces personnes-là. Et naturellement, ils ont été démarcher les personnes... de leur voisinage. Pauline a été dans une maison de retraite, mais tout ça d'une façon naturelle, spontanée. C'est pas, j'ai pas demandé à Pauline d'aller dans une maison de retraite. Celle qui m'a dit, maîtresse, est-ce que je pourrais aller dans la maison de retraite à côté? Je lui dis, essaye. Je sais pas.
Et du coup, tu essayes, Pauline, tu vas à cette maison de retraite, tu toc toc toc. Comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu demandes à voir qui?
Au début, en fait, je suis rentrée. En fait, j'étais un petit peu stressée parce que j'avais peur de la façon qu'ils allaient m'accueillir. Et après, je suis rentrée, sauf qu'en fait, il y avait plein de gens quand j'essayais de rentrer parce qu'il fallait sonner parce que c'était un milieu très sécurisé. Donc du coup, j'ai sonné. Et puis, il y avait plein de gens qui étaient assis parce qu'avant de franchir la porte, il y a des sièges, en une espèce de file d'attente. Et les gens, ils me regardaient, mais ils ne voulaient pas m'ouvrir.
Qu'est-ce qu'elle fait là ?
Oui, voilà, ils pensaient que j'étais quelqu'un d'autre. Ils se demandaient même si j'étais de cette planète. On dirait qu'ils ne m'avaient même pas vu, ils ne m'avaient jamais vu. Et après, j'ai demandé s'ils pouvaient m'ouvrir et quelqu'un s'est désigné pour venir m'ouvrir. Et après, il y avait plein de grands couloirs, donc du coup, j'ai hésité à aller dans les couloirs. Et il y a une personne qui sortait d'une part. Et je lui ai demandé, est-ce que je pourrais avoir une responsable, je sais pas, pour lui proposer quelque chose. Après, elle m'a dit, justement, c'est moi. Après, je lui ai dit que je lui ai expliqué le projet qu'on faisait. Et la maîtresse, elle nous avait donné un papier officiel en disant qu'on pouvait, que c'était vraiment vrai, qu'est-ce qu'on venait y faire. Et j'ai même pas eu besoin de leur donner, ils ont accepté. Alors moi, j'étais choquée parce que quand même, une maison de retraite, ça doit être sécurisé. Bon, tant mieux pour moi, mais après, je suis revenue deux fois.
Tu t'as posé quoi comme question ? Parce qu'une fois que tu avais accès, que tu as rencontré cette fameuse responsable, que tu lui as montré ce papier, ou pas montré, en tout cas expliqué le Madeleine Project, tu as demandé à voir qui ?
Avoir des personnes âgées. Mais en fait, quand je suis arrivée, ils étaient en pleine fête. Donc, ils faisaient une fête, je ne sais pas pour quelle occasion. Donc, du coup, ils m'ont demandé de revenir un autre jour. Et puis, je suis revenue. Et j'ai vu des personnes qui jouaient, voilà, comme au centre de loisirs. C'était vraiment très marrant. Après, bah, j'ai rencontré deux femmes, bah, qui avaient habité à Aubervilliers. Donc, je leur ai posé des questions qu'il y avait sur mon questionnaire que je devais les poser.
Par exemple.
Oui, par exemple. Est-ce que vous avez eu une maîtresse pendant votre scolarité à Jean Massé? Par exemple, aussi, bah, quel
souvenir gardez de l'école,
oui,
peut-être?
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et après, bah, ils m'ont répondu. Mais malheureusement, en fait, ils ne connaissaient pas Madeleine. Mais ça nous a quand même rapporté quelque chose parce que, enfin, pour moi, toutes les informations, c'était précieux. Fallait qu'on garde pour mettre sur Twitter pour que les gens ils ressentent notre aventure, même s'il y a eu des gens qui ont mal pris qu'on est venu les voir. Mais on l'a dit quand même parce que c'était une chose à savoir.
Ismaël, toi, ça a pris quoi comme forme, cette enquête?
Bah, en fait, pour les questions, on avait un questionnaire spécial. On commençait par des questions, par exemple. C'était une certaine tranche d'âge entre 70 et 80, je pense.
90 même.
Oui, voilà, c'est
90.
Ça.
Et il y avait des questions, par exemple, avez-vous fait votre scolarité à Jean Massé? Avez-vous vécu à Aubervilliers pendant la Seconde Guerre mondiale et un peu avant? Avez-vous entendu les bombardements?
Oui, parce que l'air de rien, quand même, à la recherche d'anciens élèves de Madeleine, ben, vous faites connaissance avec votre ville dans les années 40. Vous faites connaissance aussi avec le quotidien de la Seconde Guerre mondiale. Igor, qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que toi, t'as appris, par exemple, dans un entretien avec une vieille personne que t'aurais rencontrée?
J'ai appris parce que, en fait, j'avais déjà un voisin qui s'appelait Charles. Et donc, en fait... D'abord, quand je suis venue chez lui, j'ai toqué, j'ai demandé « Bonjour, je m'appelle Igor et avec ma classe, on fait un projet. » Et donc, lui, il m'a vitement accepté et donc on s'est parlé. Et
il a quel âge, Charles?
Charles, il a 4 ans. Et donc, on s'est parlé et il m'a dit qu'il avait une enseignante. Elle s'appelait Madame Soisson et en fait, c'était une collègue de Madeleine. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions et donc, il m'a aussi dit qu'il était, quand il avait mon âge, il était très fort en géographie et en histoire. Et qu'il a fini un lycée et il a fait beaucoup de voyages.
Que d'aventures.
En tout cas, je suis content de l'avoir... l'avoir croisé, parce que c'était une belle personne. Le peu qu'on a pu en connaître, c'était quelqu'un de foncièrement gentil. Et oui, c'est vrai, on aurait pu faire un peu plus, quoi. Même d'un point de vue rapport entre êtres humains, parce que c'était une vieille dame, parce que moi, à cette époque-là, ma mère devenait un peu plus âgée. Et je me disais, j'aimerais bien que quelqu'un, si jamais un jour elle est dans cette situation-là, quelqu'un puisse faire la même chose envers elle.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime bien ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement... Tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma. Je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, figé pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Elle est... Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine, Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène, Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, tant pis, je l'ai trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai si je t'aime, et Madeleine, elle aimera ça.
Et Igor chantait à peu près les paroles, tandis que Ismaël découvrait cette chanson pour la première fois. Jacques Brel, donc, et Madeleine. Pauline qui demandait à l'instant, est-ce qu'on est en train de faire une émission sur votre Madeleine, Clara Baudou, ou sur toutes les femmes qui s'appelaient Madeleine? Et je lui ai répondu qu'on faisait probablement un petit peu des deux, à la fois une émission sur votre Madeleine, et puis sur toutes les femmes qui s'appelaient Madeleine. On a fait un petit tour d'horizon, dont où on était le Madeleine Project. Ça s'ouvre sur quoi pour vous, Clara Baudou, après la publication de ce livre-là?
Eh bien, pour moi, l'enquête continue, en fait, a continué là, en parallèle de la préparation du livre. Moi, j'ai continué l'enquête. Donc, il va y avoir sur Twitter une saison 3, très bientôt, dans les semaines qui viennent, où je vais raconter tout ce que j'ai appris de neuf.
Et vous disiez aussi, et vous écrivez dans ce livre, combien vous apprenez aussi pour vous à titre très personnel et à titre de journaliste, comme si vous vous étiez déplacé sur un... comme si ce projet vous avait emmené sur un terrain qui est une prise de parole quoi, plus singulière, plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a appris ce projet-là?
Plus subjective, oui. Oui, j'ai l'impression clairement d'avoir fait un pas par rapport à mon métier de journaliste précédent, là, en assumant ma subjectivité, en pouvant exprimer un peu plus aussi ma créativité. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un pas de côté, mais je suis encore en train de le vivre complètement. Donc, j'ai un peu de mal encore à savoir où ça va mener, qu'est-ce que ça va devenir au-delà, après.
Donc, trop tôt pour se demander ce que ça produit, la subjectivité sur le journalisme?
En tout cas, pour moi, c'est très agréable de faire du journalisme comme ça. Enfin, et vraiment, là, j'ai l'impression de faire ce que j'aime. Enfin, c'est un très beau projet, aussi avec toutes ses ramifications.
À suivre.
À suivre.
Et à suivre pour vous aussi, parce que CM2, on se dit au revoir, on passe au collège, non?
Oui, je pense.
Donc, vous allez suivre le Madeleine Project de loin?
De loin, je pense pas, mais bon, enfin, on va essayer un peu de garder contact.
Un petit peu quand même, parce que notre projet a quand même beaucoup plu à l'inspection. Ils aimeraient bien qu'on fasse quand même peut-être quelque chose qui se poursuive en sixième. Alors peut-être pas autour du Madeleine Project, mais le fait qu'on ait beaucoup travaillé sur l'histoire de la ville, qu'on ait fait des recherches aux archives, je pense que ça pourrait être poursuivi. Puisque nous, on s'est intéressé à cette période de la Deuxième Guerre mondiale, mais l'histoire d'Aubervilliers est extrêmement riche et je pense que ça pourrait être très intéressant pour tout le monde de la connaître.
Puis vous avez une fine équipe de reporters maintenant.
Ah oui.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Voilà, ça c'est une petite surprise de Somanina qui a enregistré un jingle avec vous. J'étais pas là, c'est ça, vous avez fait ça avant le direct. Chaque jour à 7h06, 14h54, on fait entendre aussi tes souvenirs. C'est Marie-Josée Justamon qui sonde sa mémoire. Elle nous parle des taureaux aujourd'hui.
Je crois que ça a été un des premiers 33 tours qui est arrivé à la maison. C'était une sélection du Reader Digest, n'est-ce pas, avec l'ouverture de Carmen. Et il se trouve que, bien sûr, c'est quelque chose que je connaissais très bien, puisque je serais désolée de choquer du monde. Je parlais de quelque chose dont il est difficile de parler actuellement, qui est de taureaux. Je suis née dans un pays de taureaux, puisque je suis née à Beaucaire, hein, c'est au bord du Rhône, c'est Camargue, à côté, enfin la Camargue c'est l'île entre les deux, Arles est justement la pointe de cette Camargue où le Rhône se sépare en deux, et cette belle île, c'est la Camargue, et donc je suis née dans un pays de taureaux, un pays ancestral de taureaux, et mon enfance a été marquée par les taureaux. Les taureaux, qui, ça peut s'écrire de deux manières, les taureaux écrits en français c'est T-A-U-R-E-A-U-X, et c'était les taureaux de Camargue, hein, qui nous ont toujours entourés, avec lesquels on ne vit pas, c'est pas du tout la corrida, la course camarguaise. C'est un exercice difficile où le taureau est très respecté, pas du tout mis à mort, mais élevé à un an et meurt de sa belle mort. Et souvent célèbre, il y a beaucoup de statues dans la région de taureaux célèbres. Et c'est quelque chose, c'est ce que je tiens à dire, c'est pour ça que je tenais à parler de taureaux, mais de taureaux espagnols aussi, je vais y venir également, parce que c'est quelque chose, quand on vit comme ça dans une région où le taureau existe depuis toujours, ça imprègne notre inconscient. Moi, petite fille, je rêvais la nuit, c'était un cauchemar à ce moment-là, qu'un taureau me poursuivait. Et puis, à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, je n'ai plus rêvé que taureau me poursuivait. Et de la même manière, ça imprègne aussi l'inconscient collectif. Parce que ces moments de rituels très forts, qui existent au travers des taureaux, au travers des férias, des corridas organisées, des fêtes, c'est très important. Je me rappelle l'émotion très particulière qu'il y a eu, pour la feria de 2004. La feria de 2004, elle suivait les grandes inondations à Arles de 2003. Qui avait eu lieu début décembre 2003 et qui avait dévasté toute une partie de la ville, hein, et mis 10 000 habitants à la rue, carrément. Donc ça avait été un hiver très très difficile. Mais je vous assure que quand on est monté aux arènes, puisqu'on monte aux arènes à Arles, pour la première corrida, nous allons tous au taureau, c'est comme ça que ça se dit, c'était très fort, c'était évident que nous partagions là un moment à nouveau de réparation. Voilà. C'est un rituel très fort. C'est un rituel de terre et de sang, c'est vrai. C'est un rituel autour de la mort. Très sincèrement, mes grandes émotions esthétiques, je pense que c'est dans une arène que je les ai eues, encore plus fortes qu'en musique, encore plus fortes qu'en photographie ou dans d'autres domaines.
Magdalena des Pixies, choisie par Somanina pour terminer l'heure. Je vous remercie beaucoup, Clara Baudou, d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci.
Madeleine projette un reportage, c'est publié aux éditions du Sous-Sol, et puis on peut retrouver grâce au hashtag Madeleine projette sur Twitter, sur SoundCloud, sur Internet, toute la version numérique. Et merci d'avoir emmené avec vous toute la troupe de l'école du CM2. Alors, ce sont trois élèves et leur institutrice. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci.
Et bonne suite. Les Nouvelles Vagues, ça se réécoute sur franceculture.fr. On peut aussi podcaster Les Nouvelles Vagues. On peut s'écrire via Les Nouvelles Vagues. Twitter et Facebook sont aussi là pour faire. Merci à Romain Debec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron, Marie Aubert qui imagine cette émission avec moi cette semaine. Somanina la réalise. En manette aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric. C'est au droit d'auteur Charles Barjou. Dans un instant, la littérature et Mathieu Garrigou-Lagrange.